La revue de presse, Claude Askolovitch. Bonjour Claude. Et
Bonjour
la
Alex.
guerre dans la presse ce matin.
Oui, la guerre que mènent nos soldats en Afrique contre les djihadistes et que Le Point fait raconter par un écrivain Sylvain Tesson. Tesson qui ressuscite une école, celle du grand reportage et des récits d'aventure qui autrefois fleurissait notre presse. Écoutez bien mes amis ces mots de Tesson. Là, des empreintes de pas sur les traces du pneu. Les chacals sortent la nuit, la moto est donc passée hier. Le sergent El Hassan, membre des forces armées maliennes, se relève de la poussière, turban de Touareg sur la tête. Comme tous ceux de son ethnie, il use de son génie de chasseur-pisteur pour traquer les djihadistes qui hantent à motocyclette chinoise le désert du Liptako à la frontière du Mali et du Niger. Et Tesson, bien sûr, se moque de lui-même. Il écrit « Cela sonne comme du Hergé, l'auteur de Tintin. Non, en vrai, cela sonne comme notre mémoire. Cela résonne comme Albert Londres, légende du journaliste qui prenait son temps et tissait choses vues et réflexions personnelles pour nous prendre à témoin par la main et l'esprit. » Il fait 40 degrés à l'ombre. Pourquoi est-ce dans les lieux désertés par la vie que Dieu compte ses plus ardents fidèles? Ici, un jour, des musulmans fanatiques se sont dit « Si nous imposions la charia pour améliorer l'ordinaire ?» Je vous laisse lire la suite dans Le Point, où vous découvrirez que nos soldats de l'opération Barkhane sont en fait les héritiers de ces officiers qui, avec leurs supplétifs, montaient sur dromadaire. Tenez pour nous le désert du Sahara au temps des colonies. Un roman les racontait en 1934. L'escadron blanc de Joseph Perret. Et savez-vous, un de nos soldats encore aujourd'hui en 2019, lit Perret sous une moustiquaire de bivouac à la lumière d'une lampe frontale. Et par Tesson et Le Point, un doute me vient, est-ce encore là-bas l'âge des colonies? Mais aussi me vient une envie de récit et une nostalgie de la France. À sa une, Le Point rompt le charme, je vous dis tout de suite, je préfère Tesson, en me décrivant à force statistique un pays, le mien, fragmenté et coupé de son passé. 18% des nouveau-nés français ont des prénoms musulmans, nous n'allons plus à la messe et les curés disparaissent, pas tous, heureusement. La vie me raconte Nicolas Jouy, 1m93, curé de flics secours dans la Somme et ami des gilets jaunes de son coin qu'il nourrit d'un gratin de pâte dont il a trouvé la recette dans Desperate Housewives. Il a aussi la télé, ce curé. Il s'est engagé quant à ce barrage de flics secours en novembre. Des gilets jaunes avaient livré aux gendarmes, avec commentaires racistes, des migrants clandestins qui se cachaient dans un camion-citerne. Il avait dit le dimanche suivant sa honte à l'église, mais le maire communiste lui avait assuré que les racistes n'étaient pas de chez eux. Alors le curé a bougé vers le peuple trahi. Un maire communiste, un curé costaud, j'entends Don Camillo en Picardie. Il reste ces morceaux de nous dans les mots de la vie, jolis mots.
Et justement, les mots et les livres habillent les journaux ce matin, Claude.
Les mots et la mémoire. Et il me plaît que Sud-Ouest, pour évoquer le conflit indo-pakistanais, se souvienne que Gandhi avait parlé de la monstrueuse vivisection des Indes quand l'Inde et le Pakistan se séparèrent à leur indépendance dans la douleur et le sang. On peut aussi, des mots, oser le plaisir. Paris-Normandie fait sa une sur un Normand heureux de succès et de livres. Il en a déjà vendu 8 millions, Michel Bussy, qui sort aujourd'hui « J'ai dû rêver trop fort », titre inspiré de Bachung à propos de la passion de Nati, hôtesse de l'air, qui, entre ses amours, se repose en Normandie dans l'heure en marchant. La Seine a fait son boulot il y a des millions d'années et découpé une dizaine d'îlots tous boisés, parfaitement encastrés dans les fines courbes du fleuve. Elle peut se reposer maintenant et les origines du monde affleurent dans la littérature populaire. Libération s'amuse brillamment de la préhistoire et voit les origines de nos crises dans le néolithique il y a 10 000 ans, quand les bouleversements de la technique d'alors nous arrachèrent à la liberté des nomades chasseurs-cueilleurs pour faire de nous des prisonniers de la terre et de la société. L'Obs se fait plaisir d'un dialogue entre Fabrice Lucchini et Jérôme Garcin, Lucchini qui joue au cinéma une sorte de Bernard Pivot réinventé dans une comédie littéraire et sociale qui sort dans 6 jours, Le mystère Henri Pic, où son personnage s'acharne à prouver qu'un pizzaïolo breton n'a pas pu écrire ce chef-d'œuvre posthume que les lecteurs s'arrachent. Lucchini nous donne de ses nouvelles, il ne va pas se présenter à l'Académie, il ne voit plus Emmanuel Macron, avec pourtant jadis il lisait toutes les nuits de Bercy du Nietzsche et du Paul Valéry. Mais il voit Lucchini François Hollande maintenant, dont il se demande s'il ne serait pas par hasard un authentique nihiliste. Lucchini vaticine aussi sur une idée baroque d'une bibliothèque qui serait en Bretagne composée uniquement de livres refusés par les éditeurs. Bonne idée en vérité, car l'oubli est ce qui guette toujours nos mots. On me parle sur le site du Monde d'écrivaines de la fin du 19e siècle et du début du 20e, oubliées par la mémoire que détiennent les hommes. La poétesse Renée Vivien, Judith Gautier, première femme membre de l'Académie Goncourt, Marguerite Audoux, féminin en 1910, oublié mais réédité par un éditeur engagé, Talent, dans une collection joliment baptisée Plumées. Le supplément littéraire du Figaro me ramène d'autres femmes de lettres et de fureur. C'est une biographie de la romancière et femme de gauche Edmonde Charleroux, mais qui fut toute jeune princesse ou duchesse par son mariage avec le beau Camillo, héros de l'Italie fasciste, qui mourut à la guerre, mais prit d'elle une si belle photo. On me parle aussi d'une poétesse russe qui se suicida en 1941, quand le monde était en feu. Marina Tsvetaeva, racontée par une autre poétesse, Vénus Kurigata. Quel nom, quel mot, quelles femmes aussi adéquates en ce jour où le Figaro, l'Humanité me le disent, l'Académie va féminiser la langue.
Encore une femme pour finir et pour vous faire plaisir, Claude.
Et qui, par ses poings, cette femme se forge un destin. Elle est dans les pages locales du Parisien, elle s'appelle Safad Kadem, elle est iranienne, elle a 24 ans, elle fut obèse, elle est boxeuse. Elle a été découverte sur des collines de Téhéran, s'entraînant clandestinement par un boxeur, Mayar Monchipour, qui l'emmène en France à Royan en avril, disputer un combat professionnel, et nul ne sait si à son retour, elle ne sera pas jetée en prison. Elle fait pâlir, cette fille, tous les romans d'aventure.
Merci Claude Askolovitch.